Ce matin, je vais vous apporter un message. On va parler d'une famille. C'est Élie. Vous connaissez Élie ? Oui, mais ce n'est pas celui que vous pensez, ce n'est pas le prophète. C'est le sacrificateur. Alors, ce récit, ça se passe à une époque un petit peu trouble du peuple hébreu. Il y avait, depuis que Josué était mort, il n'y avait plus de chef. Et puis, il est dit d'ailleurs que à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, ce n'était pas forcément bon. Donc, le peuple s'éloignait de Dieu. Et puis, c'était la guerre. Et donc, Dieu envoyait quelqu'un, un sauveur, qui devenait juge pendant quelques années. Et puis, ça recommençait pendant presque 300 ans, d'ailleurs. Le tabernacle avait été déposé par Josué à l'entrée du pays promis, après la bataille de Jéricho, d'Aï. Ils sont arrivés à Silo, ils ont déposé l'arche là, qui est restée 300 ans. Le tabernacle, complètement. Donc Élie était sacrificateur, ça veut dire qu'il descendait de la lignée d'Aaron, parce qu'ils étaient sacrificateurs de père en fils. Et il était aussi devenu juge. C'était l'avant-dernier juge, juste avant Samuel. Et c'est à cette époque, d'ailleurs, que Anne, vous connaissez l'histoire, avait conduit son petit garçon Samuel, qui avait, je ne sais pas, peut-être 4-5 ans, vers ce vieil homme, Élie, qui ne savait même pas conduire ses fils. Je me suis toujours posé la question, dire comment elle a fait cette mère pour déposer son fils auprès d'un vieil homme comme ça pour servir dans le tabernacle. Bref, Élie avait deux fils, Ophni et Phiné, qui étaient appelés à être sacrificateurs, eux aussi, puisque c'était de père en fils. Mais c'était des vauriens, des pervers. Qui, par exemple, quand le peuple venait offrir des sacrifices, amener des animaux pour offrir des sacrifices, eh ben, ils envoyaient un serviteur piquer dans les gamelles pour prendre les meilleurs morceaux pour eux. Et puis, il est dit aussi qu'ils couchaient avec les femmes qui étaient à l'entrée du tabernacle. Alors, c'était vraiment des gens pervers, des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. Alors, c'est arrivé aux oreilles d'Élie, qui a appelé ses fils, puis qui leur a dit, quand même, c'est pas bien ce que vous faites. Vous devriez faire attention, vous devriez honorer le Seigneur, vous ne devez pas agir ainsi. Bon, c'était vraiment, ils les avaient grondés très gentiment, et les fils s'en fichaient pas mal. Alors Dieu a envoyé un prophète, on ne sait pas qui, mais c'était un prophète qui est venu pour faire des reproches à Élie et à ses fils. Pas surtout à Élie. Alors, entre autres, il lui a dit, « J'ai choisi ton ancêtre Aaron parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service en tant que prêtre, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Je lui ai même donné, à lui et à ceux qui allaient naître de lui, une part des sacrifices offerts par les Israélites. Mais vous n'avez pas de respect pour les sacrifices du peuple. Voici donc ce que je déclare. Moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, j'avais dit à ta famille et la famille de ton père la famille de ton père, il serait prêtre pour toujours, mais maintenant, j'affirme avec force, c'est fini. En effet, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront couverts de honte. Bientôt, je vais enlever de ta famille et de la famille de ton père tous ceux qui sont en pleine force. Il n'y aura plus de gens âgés chez toi. Tu verras ce qui arrivera à tes deux fils. Ils mourront tous les deux le même jour. » Pas des paroles très, très faciles à entendre, mais bon, Élie n'avait pas l'air de s'en faire. C'est l'Éternel qui a parlé, qu'il en soit fait selon ce qu'il a dit. Pendant ce temps, le jeune Samuel grandissait, il s'est passé quelques années, il y est devenu vieux, il est lourd et pratiquement aveugle. Le jeune Samuel est toujours au service de l'Éternel dans le tabernacle. Il est dit que la parole de l'Éternel était rare à cette époque. Donc c'est l'épisode où Dieu appelle Samuel. Vous savez, Samuel qui se lève 3-4 fois pour aller. Il croit que c'est Élie qui l'appelle, mais non, c'est Dieu qui l'appelle. Et puis, à la fin, donc, Samuel reçoit la parole de Dieu pour Élie. Et c'est une parole qui est aussi dure et qui confirme ce qui avait déjà été dit par le prophète. Donc, pas facile pour Samuel, j'imagine, de se dire, oh là là, il sait que Dieu m'a appelé, il va falloir que je lui dise, mais voilà, mettez-vous à la place du jeune Samuel. Ça ne devait pas être facile. Et puis, il faisait semblant de rien, il ouvrait les portes du tabernacle et tout. Mais Élie l'a appelé, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit Dieu ? Donc Samuel lui a dit, et puis Élie, un peu blasé, « Bon, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Pas de repentance, pas de... Non, rien. Que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Et puis arrive la guerre des Philistins. Donc Israël sort pour les combattre et ils sont battus. Alors ils se plaignent, mais pourquoi l'Éternel ne nous a pas permis de gagner ? Pourquoi n'était-il pas avec nous ? Ils n'arrêtent pas de se plaindre et finalement, ils décident d'aller chercher l'Arche de l'Alliance à Silo. Donc, avec l'Arche de l'Alliance, nous aurons la présence de Dieu avec nous, donc tout ira bien. Nous aurons la victoire. Et Ophni et Phiné viennent avec l'Arche. Alors, bien sûr, là, ce ne sont plus des pleurs, mais ce sont des grands cris de joie. « Ouais, le Seigneur est avec nous, alléluia !» Nous allons avoir la victoire. Et du coup, ça fait tellement de bruit que les Philistins entendent. Et puis, ils ont peur parce qu'ils ont appris que l'Arche de l'Alliance était venue. Donc, c'est la présence de Dieu. Et ils se rappellent ce que Dieu a fait aux autres peuples avant. Mais ils se reprennent vite et puis ils se disent, allez, courage, on va combattre. Parce que sinon, si on ne gagne pas, on va devenir esclave du peuple hébreu. Le combat est rude. Israël est battu. 30 000 morts. Et en plus, les Philistins emmènent l'arche. Dans la bagarre, les deux fils d'Élie sont tués. Alors un soldat court, retourne à Silo pour prévenir de ce qui est arrivé. Là, c'est plus les rires, c'est les pleurs. Il entre dans la ville, c'est les grands cris. Le peuple pousse de grands cris qui arrivent aux oreilles d'Élie qui, lui, comme il est vieux, qu'il ne voit plus rien, il est assis à la porte du tabernacle et puis il attend des nouvelles avec impatience de savoir qu'est-il arrivé, est-ce que l'arche va revenir, etc. Et puis quand on lui annonce ce qui est arrivé, il tombe à la renverse, il se casse la nuque et il meurt. Il était lourd, il avait 98 ans, il avait été juge pendant 40 ans en Israël. Sa belle-fille, la femme de Phiné, était sur le point d'accoucher. Alors quand elle a appris la nouvelle, les douleurs sont venues et elle a accouché. Et les femmes qui étaient avec elle, qui l'aidaient, lui ont dit « tu as un fils, réjouis-toi !» Mais elle est morte. Elle a appelé son fils Ichabod. La gloire a quitté Israël. Elle dit « la gloire est bannie, elle a quitté Israël. » Car l'arche de Dieu est prise. Elle était plus prise par le fait que l'arche était partie que par la mort de son mari. Il est vrai que depuis la sortie d'Égypte, l'arche de l'Alliance était la confirmation de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alors bon, Dieu n'a pas abandonné son peuple, il n'a jamais abandonné, même dans les plus les histoires les plus difficiles jusqu'à aujourd'hui. Mais la gloire a disparu. La gloire a disparu. Alors les Philistins, le reste de l'histoire, vous pouvez le lire hein, dans 1 Samuel, les Philistins auront beaucoup de problèmes avec l'Arche de l'Alliance jusqu'à ce qu'ils décident de la renvoyer, mais ce n'est pas notre sujet. Voilà, donc à partir de ce texte, on va essayer de voir ce que ça peut nous apporter à nous aujourd'hui. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui. Et de toute façon, ce n'est que le chapitre 1 d'un message. Il y en aura un deuxième, je ne sais pas quand. Pour moi, le départ de ma méditation, ça a été la gloire. Parce que Francine peut le dire à maison de prière, on cherche la gloire, c'est quoi la gloire, et etc. Et quand j'ai relu ce texte qui dit « La gloire a quitté Israël », ça m'a interpellée. La gloire, c'est un mot qui fait partie de notre vocabulaire en tant que chrétien. La gloire de Dieu, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est la gloire de Dieu? Est-ce qu'on sait vraiment? On parle de la gloire de Dieu, la gloire qui est manifestée dans la création, la gloire de Jésus, rendre gloire à Dieu, manifester sa gloire, montre-nous ta gloire. On le prie, on le chante, on aspire, d'ailleurs on a chanté des chants qui allaient dans ce sens aussi, on aspire à voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. Mais qu'est-ce qu'on attend en réalité? Qu'est-ce qu'on attend quand on veut voir la gloire de Dieu? Voir la puissance de Dieu se manifester par des miracles, des prodiges, des guérisons, etc. Je ne dis pas qu'on a tort, hein, mais Dieu veut manifester sa gloire autrement. La gloire de Dieu, ce n'est pas que ça, mais ce sera le sujet de mon prochain message. Si je prends ce message sur la gloire, c'est parce que c'est ma faim et ma soif, de ma quête pour saisir les réalités spirituelles. Alors, le premier thème que je vais prendre dans ce que je viens de vous raconter, vous vous rappelez, les fils d'Élie font n'importe quoi, et Dieu envoie un prophète vers Élie, et il lui rappelle ce à quoi il est appelé ainsi que ses fils en tant que descendant d'Aaron. Je rappelle qu'Aaron, il était de la tribu de Lévi, mais dans la tribu de Lévi, la famille d'Aaron avait été choisie particulièrement pour être sacrificateur. Les autres, les Lévites, servaient aussi dans le temple, mais la famille d'Aaron était sacrificateur, prêtre pour Dieu. Et puis quel appel donc ? Quelle responsabilité, mais aussi quel privilège. C'est un privilège d'être appelé à servir Dieu. Alors les fils d'Élie, descendants d'Aaron, méprisaient cette présence de Dieu, ce manque de respect pour le rappel, manque de respect pour l'appel, foulaient aux pieds les sacrifices et leurs services. Dans ce qu'il dit, le prophète cite quatre choses. Les tâches principales du sacrificateur. Il y a l'appel au sacerdoce. La deuxième chose, c'est monter à l'autel pour offrir des sacrifices. La troisième, brûler les parfums. Et la quatrième, porter les faudes. Comment appliquer ces choses pour nous aujourd'hui? Donc l'appel au sacerdoce. Vous vous rappelez que Bernard a donné un message il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus, sur le fait d'être sacrificateur avec comme référence Apocalypse 1:6, il a fait de nous un peuple de rois et des prêtres sacrificateurs au service de Dieu, son Père. En tant que chrétiens, nous avons tous cet appel à être prêtres et à servir Dieu. Le sacrificateur consacre sa vie à Dieu, il a une manière de vivre différente. Il est reconnaissable. On peut dire que oui, toi, tu as quelque chose de différent. Bon, je ne vais pas me mettre en avant, mais je me rappelle quand j'étais pas encore mariée. Je travaillais et puis j'ai commencé à témoigner à une fille à mon travail. Et puis elle me dit, ah, c'est pour ça. Elle me disait bien que tu avais quelque chose de particulier. Donc je pense qu'on doit pouvoir témoigner dans notre entourage et que les autres voient qui nous sommes. Et puis les sacrificateurs avaient accès à la présence de Dieu. Ils le servaient dans le tabernacle, dans le lieu saint, et une fois par an, dans le lieu très saint. Donc l'appel est important et précieux pour nous aussi, parce qu'on est appelé à avoir accès à la présence de Dieu. Monter à l'autel. Oui, les jours de jeûne et prière, c'est pour monter plus haut. Donc, monter à l'autel pour offrir les sacrifices. En résumé, le sacrificateur offrait les sacrifices que le peuple amenait. Il faisait au nom du peuple. C'était pas toi qui venais et qui offrais ton animal sur l'autel, c'était le sacrificateur qui prenait et qui offrait le sacrifice au nom du peuple. Donc il était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Nous avons, nous, bien sûr, un intermédiaire, c'est Jésus, mais nous sommes, nous aussi, en tant que chrétiens, intermédiaires entre le peuple et Dieu, par l'intercession, par la prière. Et pour ça, on a besoin, comme il est dit, monter à l'autel, c'est-à-dire de se détacher des choses qui nous tiennent liées, qui nous empêchent, pour monter dans la présence de Dieu et offrir ses sacrifices et prier pour tous ceux qui nous entourent, pour le royaume de Dieu. Il y a cette image de monter à l'autel dans la présence de Dieu et se détacher de ce qui nous préoccupe. Brûler les parfums. Alors, il y a plusieurs notions de parfums dans la Bible, mais le fait de brûler des parfums était le rôle du sacrificateur qui entrait dans le lieu saint. Il faisait brûler ce parfum spécialement conçu pour ça, sur l'autel des parfums, qui était un autel en or, qui était devant le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et le sacrificateur faisait brûler les parfums sur cet autel des parfums. Et puis il devait être entretenu matin et soir pour que ce parfum brûle continuellement et qu'il monte jusqu'à Dieu. Le parfum, donc, était un parfum d'une agréable odeur pour l'Éternel. Donc ça évoque pour nous le fait de rencontrer Dieu, de lui offrir nos louanges, notre adoration. Ça évoque aussi le fait que les parfums étaient entretenus. Si pendant 3 jours, il n'allait pas ranimer le feu et remettre le parfum, le parfum, ça ne brûlait plus. Donc ça nous montre aussi notre ce que nous devons faire aussi pour entretenir ces parfums. Alors ce n'est pas seulement notre adoration, c'est notre vie qui doit être offerte. D'ailleurs, on l'a beaucoup chanté ce matin. Je te donne ma vie. Prêt à te servir. Je ne vais pas reprendre toutes les paroles, mais pourrais y réfléchir. Donc c'est pas seulement notre louange et notre adoration, c'est notre vie tout entière. Parce que Jésus, il est dit dans Éphésiens 5:2, Jésus s'est offert comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, et nous sommes invités à l'imiter dans Romains 12. Ouvrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Car il avait fait un chant qui dit « Je veux devenir louange, je veux devenir parfum, être un sacrifice vivant, embrasé sur l'autel. Je veux devenir louange, je veux devenir parfum, je veux n'être plus qu'un chant. » Un chant d'amour sans fin. Donc, chacun de nous, on peut être un sacrifice vivant pour que l'odeur du parfum monte jusqu'à Dieu. Et puis le dernier, porter l'éphod. En quoi ça consiste pour nous, hein? Ça peut nous paraître un peu dépassé. Alors, le souverain sacrificateur portait un éphod, enfin une robe majestueuse, plein de couleurs, plein de de l'or, des chaînettes, etc., etc., etc. Vous pouvez le lire dans Exode 28. Mais les prêtres ordinaires, prêtres, quand je dis prêtres ordinaires, c'est aussi sacrificateurs, hein, parce qu'il y avait le souverain sacrificateur, qui était Aaron, et les autres, ben, les enfants, les fils servaient aussi. Alors, ils portaient aussi un simple éphod, donc c'était une robe de lin, une tunique en lin. C'était le vêtement qui permettait de se présenter devant Dieu. Vous vous rappelez, Samuel, sa maman lui amenait chaque année un éphod nouveau, parce que ben, il avait grandi, donc il fallait qu'il ait un éphod adapté. Et puis le roi David aussi, il portait un éphod quand il a ramené l'arche de Silo jusqu'à Jérusalem. Il portait un éphod et puis dansait devant l'arche. Et puis, une autre fois, par exemple, il a demandé à... Alors qu'il devait combattre Saül, il voulait savoir s'il fallait qu'il aille ou pas, donc il a demandé au sacrificateur d'amener l'éphod pour consulter Dieu. Donc voilà, l'éphod, c'était quelque chose qui permettait de se présenter devant Dieu et d'entrer dans la présence de Dieu, mais pas avec les vêtements de tous les jours. Donc les sacrificateurs, avant d'aller faire leur service, ils allaient dans une pièce quelque part et ils enlevaient leurs vêtements et ils mettaient un éphod et ils allaient faire leur service. Ça évoque la manière dont nous nous approchons de Dieu. Jacques 4:8 nous dit « Purifiez vos mains pécheurs et nettoyez vos cœurs âmes partagées. » Voilà. Quatre points importants dans l'appel qui était fait au sacrificateur, mais qui nous est adressé aussi à nous, et qui nous permettent de nous approcher de Dieu. J'avais écrit « Si nous voulons côtoyer la gloire de Dieu ». Je résume, entrer dans notre appel à être sacrificateur, nous élever, nous concentrer dans l'intercession, brûler des parfums, notre adoration, venir vers Dieu en élevant les mains et un cœur pur. Il y avait un slogan dans le temps, je me demande si ce n'était pas le titre du journal de la Fédération Baptiste, qui disait « Sauver pour servir ». Notre fils Étienne disait récemment dans un message qu'il avait apporté dans son église « Beaucoup se contentent du Sauveur, mais combien suivent le Seigneur ?» Beaucoup se contentent du Sauveur. Je suis sauvé. Alléluia, merci Seigneur. Mais combien suivent le Seigneur? Le Seigneur, c'est celui qui règne. On l'a beaucoup chanté aussi ce matin dans les chants. Merci Israël. Donc nous sommes ouvriers avec Dieu et nous sommes appelés à le servir et pas seulement à nous contenter du salut. Pouvons-nous nous contenter de la grâce sans aller plus loin? Si vous lisez toutes les épîtres de Paul, vous allez voir qu'il vous encourage à marcher et à vous donner entièrement pour le Seigneur. Il n'y aura pas de PowerPoint ce matin. Donc, si vous voulez les versets, vous les notez. Alors le deuxième point qu'on va voir, c'est, je vous rappelle l'épisode, c'est la guerre avec les Philistins, ennemis de toujours d'Israël, soit dit en passant, les Philistins habitaient la bande de Gaza. Et donc c'est toujours les ennemis d'Israël. Donc, les Philistins entrent en guerre avec le peuple. Le peuple essuie une première défaite. Ils décident d'aller chercher l'arche. Et puis, quand ils prennent l'arche, finalement, ils n'ont pas la victoire. C'est alors la grosse défaite, avec en plus la mort des deux fils d'Élie, plus la mort d'Élie, plus la mort de l'épouse de Phiné. Et l'arche est emmenée par les Philistins, ce qui leur posera quelques soucis. Mais ce n'est pas le sujet. Ce que Dieu avait annoncé par le prophète et ensuite par Samuel s'est accompli. Alors, ce n'est pas arrivé l'année d'après, c'est, je ne sais pas combien d'années après, mais en tout cas, il s'est passé quelques années avant que ça n'arrive. Et la femme de Phiné, avant de mourir, s'écrie « La gloire a quitté Israël ». Le peuple était dépositaire de l'arche de la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance ne pouvait être portée que par les Lévites et ou les sacrificateurs. Elle devait être portée avec des barres sur l'épaule des Lévites, donc à pied. Comment Ophni et Phiné ont-ils accepté de la sortir du lieu saint? Bien sûr, on a vu qu'ils n'avaient aucun respect. Et puis Élie, lui, bon, il a laissé faire. Alors pourquoi ont-ils voulu emmener? Pourquoi ont-ils voulu l'emmener, le coffre de l'Alliance? Le coffre de l'Alliance était la présence de Dieu dans le lieu très saint, derrière le voile. Hébreux 9, 4, si vous voulez noter. Le coffre de l'Alliance entièrement recouvert d'or, dans lequel il y avait une urne d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tablettes de l'Alliance. Alors les tables donc qui étaient dans le coffre, c'était les commandements écrits de la main de Dieu. C'était l'alliance avec le peuple. Les commandements. La manne, c'était un rappel de la providence de Dieu pour le peuple dans le désert. Dieu a pourvu pour eux pendant 40 ans. Et le bâton d'Aaron qui avait fleuri, c'était le choix de Dieu pour la tribu d'Aaron. Comme ça, quelques mots sur pourquoi le bâton d'Aaron. Au début de leur pérégrination dans le désert, Dieu a demandé à Moïse de demander à ce que chaque tribu, chaque chef de tribu, enfin des 12 tribus, apporte un bâton. Et puis, marquer leur nom sur le bâton. Tu les déposeras dans le tabernacle, dans la tente de la rencontre à cette époque-là, pour qu'ils passent la nuit. Et le lendemain, quand Moïse est allé dans le tabernacle, seul le bâton d'Aaron, en une nuit, il avait fleuri, il avait produit des amandes. Ça a confirmé aux yeux du peuple que la tribu d'Aaron, la maison d'Aaron avait été choisie. Donc il y a le choix de Dieu qui est présente dans cette alliance. Bien sûr, la manifestation de Dieu, la présence de Dieu se manifestait aussi d'autres façons pour le peuple dans le désert, avec la nuée qui les guidait, etc., vers le pays promis. Dieu ne se laisse pas manipuler. Je dirais même qu'il ne rigole pas. La présence de Dieu se retire quand les conditions ne sont pas réunies. Ou il sévit. Comme quand David est allé chercher l'arche dans de mauvaises conditions, je ne sais pas si vous vous rappelez, la première fois qu'il a voulu, je dirais le désir, l'intention de David était bonne, elle était très bonne. Il voulait la présence de Dieu à Jérusalem, près de la maison, près de son palais, du palais qu'il s'était construit, il voulait même construire le temple. Donc il voulait ramener cette arche de l'Alliance près de lui pour pouvoir louer et adorer Dieu. L'intention était bonne, mais la manière ne l'était pas. Donc, ils ont emmené l'arche n'importe comment, sur un char, et puis à un moment donné, il y avait des cailloux, l'arche allait poum, 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 et puis Ouza a mis la main pour ne pas qu'elle tombe, et il est mort. C'est vrai que c'est un peu dur, hein, passage. Mais voilà, David s'est rendu compte qu'il n'avait pas été... qu'il n'avait pas fait les choses comme il fallait. Donc il a déposé l'arche chez Obed-Edom. Ça, c'est aussi une belle histoire, une autre belle histoire. Et il est revenu plus tard. Donc Dieu ne rigole pas. Soit il se retire, soit il punit. Donc le peuple avait emmené l'arche. Il l'avait emmené comme un gris-gris. L'arche, c'est un peu comme un gris-gris. Ouais, on a la présence de Dieu, on va avoir la victoire, etc., etc. Mais ils ont manqué de respect, inconscient de ce qu'ils faisaient, revendiquant le fait d'être peuple de Dieu. On va à la guerre, on a l'arche. Ouais, vous allez voir, notre Dieu arrive avec nous, on va gagner la bataille. Et non, mais leur cœur n'était pas prêt. C'est ça, je dirais, la différence. Leur cœur n'était pas pur. Le psaume 78-37 dit « Leur cœur n'était pas fermement avec lui et il n'était pas, il n'était pas sûrement établi dans son alliance. » Et puis vous vous rappelez de ce texte que Bernard nous avait rapporté, qu'on avait eu à la maison de prière, Osée 5-15. « Moi, le Seigneur, je pars. Je vais rentrer chez moi jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur faute et se tournent vers moi. » Et donc le pire est arrivé, la mort des deux fils, la mort d'Élie, mais le pire, c'est la gloire qui avait quitté Israël. Elle reviendra plus tard, ça c'est aussi un épisode que vous pouvez lire dans la suite des chapitres. Dieu ne les a pas abandonnés complètement, mais sa gloire est partie. Quelle application pour nous aujourd'hui? L'arche de l'Alliance, c'était la présence de Dieu pour le peuple. Pour nous, aujourd'hui, on est au bénéfice de l'Alliance dans le sang de Jésus. Mais quel est le signe, le gage de la présence de Dieu en nous? C'est le Saint-Esprit. Éphésiens 13 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Et c'est la promesse de Jésus pour nous dans Jean 14. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de la vérité. Et puis au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » J'aime beaucoup ce verset parce que on dit toujours « Le Saint-Esprit est en moi », mais ce qu'on réalise que Jésus dit « Mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure auprès de lui. » Tu peux mettre le ventilo, s'il te plaît. Le Père et le Fils font leur demeure en nous par l'Esprit. L'Esprit de Jésus conduisait aussi les apôtres, quand vous lisez toutes les lettres et les actes des apôtres. Le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui, il est la troisième personne de la Trinité et il est saint. Il nous a aussi marqués de son sceau et il a déposé dans notre cœur les arts de l'Esprit. Et puis ce verset que vous connaissez bien et qu'on dit souvent, 1 Corinthiens 6, 19, vous savez, non ? 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Si on le met en parallèle avec l'Arche de l'Alliance et tout ce qu'il y avait dans l'Arche de l'Alliance, on se dit, est-ce que vraiment le temple du le Saint-Esprit a sa demeure en moi? Nous avons le privilège, plus que le peuple hébreu, de vivre cette proximité avec Dieu, cette présence de lui en nous par son Esprit. Le peuple hébreu a fait n'importe quoi avec l'arche. Il s'en est servi, comme je disais, comme d'un gris-gris. Nous sommes le peuple de Dieu, nous avons son appui, nous avons l'arche. On y va. Et nous, que faisons-nous? Que faisons-nous du Saint-Esprit? J'ai conscience que je vais peut-être vous bousculer un peu. J'ai peut-être déjà fait d'ailleurs. Mais le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? Donc on a quelquefois besoin de douceur, de consolation, et d'autres fois d'être un petit peu secoué pour que nous puissions prendre conscience de ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. Donc nous avons le Saint-Esprit, ouais, on est charismatique. On parle en langue, on prie pour les malades. Il y en a quelquefois qui sont guéris, pas toujours. J'ai la victoire sur tous mes problèmes. Et nous prions au nom de l'Esprit. Vous connaissez Catherine Kuhlmann ? C'était une femme qui avait un don extraordinaire de guérison. Et elle disait, le vase n'utilise pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui utilise le vase. Hein, je répète. Le vase n'utilise pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui utilise le vase. Quelquefois, c'est nous qui nous servons du Saint-Esprit. De Corinthiens 4, 7, si vous voulez noter. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non ma propre capacité. Combien de fois on y va ? La fleur au fusil, comme on dit, en disant, voilà, ouais, le Saint-Esprit est avec moi. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme les Israéliens, comme le peuple hébreu ? On arrive avec nos gros sabots en criant victoire. On se dit que le Saint-Esprit est avec nous et on se prend des vents. Ça vous est jamais arrivé ? Est-ce que l'Esprit est prêt à nous utiliser, à m'utiliser, ou est-ce que je suis prêt à être utilisé par l'Esprit ? Est-ce que je suis prêt à être utilisé par l'Esprit et non pas le contraire ? C'est une question importante au regard de ce que Jésus nous dit dans ce verset que tout le monde connaît, dans Matthieu 7, 22, « Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc on peut faire beaucoup de choses au nom de Jésus, au nom du Saint-Esprit. Parce qu'on aura reçu un don, un jour on a reçu un don de guérison et ce don on le garde et donc on continue à faire à prier et puis les gens sont guéris quelquefois. Mais qu'est-ce qui est le plus important ? C'est la disponibilité de notre cœur. Avoir un cœur pur, avoir des mains pures, avoir des idées pures devant Dieu. Donc, en Église, on peut vivre une belle louange avec une belle onction, et merci encore à Israël. On peut avoir des beaux messages qui sont la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. On peut vivre plein de choses sans la présence réelle de la gloire de Jésus, sans la présence glorieuse de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'un jour, Seigneur lui a dit, tu vois, c'est beau ton église, hein, on chante bien, il y a des beaux chants, il y a des beaux messages et tout, mais je suis à la porte et je frappe quoi, pour rentrer. Donc on peut faire plein de belles choses, mais on passe à côté. C'est-à-dire, on frôle la gloire de Dieu. Il y a une belle onction dans la louange et tout. Mais on frôle la gloire de Dieu. On n'entre pas. Parce que je vous assure que si on entrait vraiment dans la gloire de Dieu, ça se passerait autrement dans l'Église. Finalement, on veut voir la gloire de Dieu et on est frustré. On se demande, pourquoi, Seigneur, on ne voit pas plus de choses. Encore une fois, c'est voir les choses plutôt que de vivre quelque chose. Pourquoi tu n'agis pas ? Pourquoi tu nous as donné le Saint-Esprit ? Tu as dit qu'on ferait des miracles plus grands que toi. Ce n'est pas vraiment le cas. Pourtant, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je crois que Dieu est tout-puissant. Ah bon, merci. Je ne suis pas toute seule. Ça me rassure. Donc je crois que la présence du Saint-Esprit dans le croyant est la garantie de la réalisation de toutes les promesses de Dieu. Mais encore une fois, je vais bientôt terminer, on se trompe peut-être de cible. On cherche la gloire de Dieu dans ses mains, on le dit souvent, mais pas dans sa face, c'est-à-dire dans une rencontre intime avec lui, chercher sa présence, non pas chercher ce qu'il va me faire, ce qu'il va le faire pour mon frère, ma sœur, mais chercher sa présence à lui, son intimité, une rencontre intime avec lui. Et le ministère de l'Esprit peut être beaucoup plus grand, beaucoup plus glorieux que ce que nous vivons. C'est 2 Corinthiens 3:8. Mais voilà, je ne peux pas aller plus loin. Je ne vais pas entamer sur ce qui sera un autre message sur la gloire de Dieu. Alors la question que je nous pose, je ne sais pas si tu peux quand même aller sur aidez-moi. PowerPoint, voilà. Tu regardes, il y a un PowerPoint, c'est marqué la gloire de Dieu, je ne sais pas si tu l'as. Si tu peux l'ouvrir et aller à la dernière diapo. Que j'en avais fait un, mais bon, ça marche sur mon ordi, ça ne marche pas ici. Tu arrives à l'ouvrir? Bon, en attendant, je vous lis. Donc la question que je nous pose pour terminer, et c'est, on va passer un temps à méditer chacun, quel est le domaine dont j'ai le plus besoin? Être un sacrificateur, est-ce que j'ai répondu au fait d'être sacrificateur pour Dieu et de servir sa présence? Offrir des sacrifices, être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, prier pour son royaume, prier pour sa gloire. Que ma vie soit offerte comme un parfum de bonne odeur pour Christ. Que je m'approche de Dieu dans l'humilité et non dans l'arrogance. Ou, comme on l'a chanté tout à l'heure, des faux-semblants. Ça m'arrive, hein. Non, ça ne vous arrive pas? Faire croire que je ne méprise pas l'Esprit de Jésus, gage de sa présence en moi, que je me laisse utiliser par le Saint-Esprit et non le contraire. Non, vous n'arrivez pas? Tu as trouvé le PowerPoint? Voilà, c'est ça. Pas écrit très grand, mais voilà. Donc je vous invite à lire et puis ensuite je vous invite à un moment de recueillement. Qu'est-ce qui me manque, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai besoin? Seigneur, que je ne méprise pas l'Esprit de Jésus, gage de sa présence en moi. Combien de fois on le méprise? Ouais, le Saint-Esprit, c'est bien, il est avec moi. Je suis fort. Que je me laisse utiliser par le Saint-Esprit et non le contraire. Je vous invite à méditer, à courber vos fronts et à méditer. Et puis, on entrera ensuite dans le temps de la scène.